France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
On a fini l'année 2025 avec une commission parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, c'est-à-dire nous. Une commission houleuse, anxiogène pour certains, et conduite par le sciotiste Charles Alloncle. 6 jours d'audition aux aires de réquisitoire où ont comparu, si j'ose dire, les représentants des grands médias publics, de l'ARCOM et certains journalistes, sommés de répondre de leur pluralisme, de leur impartialité et de leur neutralité. Des débats qui ont fait couler beaucoup d'encre, suscité de nombreuses réactions et commentaires et sur lesquels on ne va pas revenir, c'est promis. Cependant, même si on est conscient que l'audiovisuel public n'est pas la préoccupation principale des Français et des Françaises, pour élargir le débat et nourrir notre réflexion, on a eu envie d'aller voir comment s'en sortent nos voisins belges francophones. Comment se porte leur audiovisuel public à eux? On s'est permis, comme on le fait de temps en temps, une petite enquête sur le terrain, à la première personne, menée par une de nos collaboratrices qui vit à Bruxelles. Elle s'appelle Stéphanie Thomas, elle travaille avec les pieds sur terre régulièrement, depuis seulement 20 ans, excusez du peu, c'est dire si on lui fait confiance. On écoute donc son récit et l'évocation d'un système étonnant qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique et défend un débat public sans propos racistes ou discriminatoires.
Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much.
Nous sommes le 20 janvier 2025. Les télévisions du monde entier reprennent en direct le discours inaugural d'investiture de Donald Trump.
The golden age of America begins right now.
Partout, sauf en Belgique. Ici, la RTBF, la chaîne nationale francophone de radio et de télévision belge, décide de faire autrement.
From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world.
Elle diffuse le discours du 47e président américain avec 2 minutes de décalage.
Simply put America first.
Ce décalage a pour but de s'assurer qu'il n'y aura pas dans le discours de Trump de dérapage, de propos liberticides, haineux, antidémocratiques. Connaissant le personnage, ce n'est pas exclu. La décision est prise par la rédaction de la chaîne, mais il revient à un certain Simon-Pierre de Coster de donner son aval. Il est directeur juridique de la RTBF, il y travaille depuis plus de 30 ans. C'est une des décisions les plus délicates de sa vie, car elle concerne un pays étranger. La question qu'il se pose, c'est celle-ci.
Est-ce qu'il y a une majorité, des indices concordants d'une hostilité manifeste aux valeurs démocratiques dans les propos de Trump ? Le parti républicain en tant que tel n'est pas un parti non démocratique, mais est-ce que la personne de Trump est liberticide ou non? Les propos que tient Trump sont-ils liberticides de manière générale? Là, la réponse a été oui, il y a un danger potentiel et donc on ne va pas donner la parole en direct à Trump. Et donc l'idée, c'était qu'il puisse y avoir une explication du directeur de l'information ou de son adjointe qui aurait pris l'antenne à ce moment-là en disant « ce que dit Trump ici est une incitation à la haine, à la discrimination et est contraire aux valeurs démocratiques de la RTBF qui ne peut pas diffuser de discours en direct incitant à la haine et à la discrimination ».
La décision fait pourtant débat. La ministre wallonne des médias demande à la chaîne publique de détailler la méthodologie utilisée et les critères juridiques qui l'ont fondée. Et pour la première fois sans doute, la presse française se met à parler de ce que nous appelons ici en Belgique notre cordon sanitaire médiatique. C'est-à-dire une méthode adoptée par les médias pour se protéger de l'extrême droite, pour les garder à bonne distance. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Je précise que je suis née en Belgique, j'y ai grandi et je continue à y vivre en partie. Même si j'ai la nationalité française, je me sens assez belge et la notion de cordon sanitaire est une des exceptions belges dont je suis assez fière. Pour essayer de me souvenir comment ça avait été mis en place en Belgique francophone, je suis allée voir la Belge la plus célèbre de France et par ailleurs notre consoeur à Radio France, Charline Vonnecker. Avant d'être l'humoriste que l'on sait, Elle était correspondante de la RTBF en France.
J'ai deux souvenirs en tête. La RTBF radio m'envoie couvrir un très important rendez-vous politique, meeting du Front National. J'ai souvenir que c'était l'élection de Marine Le Pen à la tête du Front National. Elle succède donc à son père. C'est un événement assez majeur pour que la Belgique couvre cet événement. J'envoie ce qu'on appelle un son brut à ma rédaction de la RTBF, c'est-à-dire une minute d'extrait du discours de Marine Le Pen. Et mon rédacteur en chef me rappelle en disant « Charline, je te rappelle qu'on pratique le cordon médiatique en Belgique ». Je dis « Ben oui, je sais bien quand même ». Il dit « Oui, mais c'est valable aussi pour ce qu'on appelle un son brut ». Il dit « Je ne peux pas le diffuser si tu ne l'enrobes pas dans ta voix ». Je sais que le cordon sanitaire médiatique existe en Belgique et qu'on ne va pas diffuser en direct une voix d'extrême droite. Mais pour moi, c'était enregistré. Donc, comme c'était un extrait où il n'y avait pas de dérapage, où il n'y avait pas d'appel à la haine, je pensais qu'il était possible de le diffuser. Et on m'a dit « Non, c'est une règle. Si on diffuse un propos émanant de l'extrême droite, il faut que ce propos soit enrobé, c'est-à-dire enchâssé, par un propos journalistique. Ça reste factuel, ça reste le plus objectif possible. Je me trouve à Tours, par exemple. Nous sommes dimanche après-midi. Marine Le Pen vient d'être élue, succède, etc. Donc ça veut dire que le cordon sanitaire est quand même assez épais. Il a été bien tricoté à l'époque.
L'époque, c'est en 1988, le 9 octobre précisément. Il y a des élections municipales dans toute la Belgique. Un parti d'extrême droite flamand, qui s'appelle le Vlaamse Blok, fait sa première apparition dans plusieurs conseils communaux en Flandre. Son programme ne laisse pas beaucoup de doutes. Indépendance de la Flandre, renvoi des étrangers, criminalisation de l'immigration et exaltation des valeurs familiales. Et si ça ne suffit pas, on peut préciser que le Vlaamse Blok n'hésite pas à inclure à ce moment-là sur ses listes électorales des anciens SS flamands et des sympathisants de la collaboration. En 1988, Simon-Pierre de Coster, que vous avez entendu au début, était déjà juriste à la RTBF.
Alors moi, je suis rentré à la RTBF en fait en 1987 et les premières élections où on voit apparaître vraiment un résultat important au niveau des partis extrémistes radicaux, c'est aux élections municipales d'octobre 88 en Flandre, spécialement du côté d'Anvers, où le Vlaamse Blok fait une percée importante. Mais c'est en novembre 91 qu'a lieu le Dimanche Noir, avec un véritable triomphe du Vlaamse Blok qui décroche 12 députés fédéraux là où il n'en avait que 2, et une percée du Front National en Wallonie et à Bruxelles qui voit élire un député. Et à partir du Dimanche Noir, la réflexion se développe petit à petit.
5%. Aux élections communales de 82 à Anvers. 18% en 88, 28% en 94. C'est une progression qui fait vraiment penser à celle du parti nazi dans l'Allemagne du début des années 30. Et dans cette marche vers le pouvoir, évidemment, les résultats d'octobre 94 sonnent comme un triomphe. Retrouvons-nous au quartier général anversois du Bloc, le soir des élections.
25%, plus de 28%.
En octobre 1994, le Vlaamse Blok remporte un succès sans précédent aux élections communales de la ville d'Anvers. 28% des voix, soit 18 sièges sur 55. Le Vlaamse Blok est devenu le premier parti d'Anvers.
Il est important que les citoyens soient informés sur l'existence de ce parti, sur le contenu de son programme. Mais, il dit, il y a deux interdits. On ne va pas inviter des gens, des représentants des partis d'extrême droite dans des émissions de débat, et on ne va pas les interviewer en direct dans des émissions d'information. Et donc il n'y a pas un refus de discuter des questions d'extrême droite, mais il y a un refus de leur donner la parole en direct et de leur donner la parole dans des débats. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi, mais c'est tout simplement parce que il est très difficile de débattre en tant que démocrate avec des gens qui refusent le débat démocratique et qui refuse de respecter les valeurs de la démocratie et qui généralement procède par des slogans, des raccourcis assassins dans lesquels il se met en porte-à-faux par rapport à la démocratie. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis jeune juriste au cabinet de l'administrateur général, et je ne suis pas mêlé à une réflexion qui, à ce moment-là, est une réflexion purement d'ordre journalistique et déontologique. Je n'ai même pas souvenance qu'il y ait eu un débat au conseil d'administration de la RTBF en 1991. J'en ai pas retrouvé trace, en tout cas, dans les procès-verbaux du conseil d'administration.
À l'époque, la décision de parler de l'extrême droite sans elle se fait spontanément. À RTL, la radio-télévision luxembourgeoise, qui est la principale concurrente privée de la RTBF, on décide aussi d'appliquer un cordon sanitaire médiatique contre l'extrême droite. Le directeur de l'information d'alors, c'est Stéphane Rosenblatt.
En fait, la mise en place de ce cordon sanitaire s'est passée de manière très très informelle. La RTBF, de son côté, il a réfléchi. Maintenant, la RTBF avait un processus parce que c'est la chaîne publique, parce que c'était une responsabilité évidemment très forte et elle doit passer par toute une série de process, y compris ceux d'un conseil d'administration qui est un conseil d'administration représentatif des différentes opinions politiques, ce qui n'était pas le cas de l'entreprise où je bosse, parce que RTL évidemment est une boîte privée et donc qui n'avait pas ces obligations. Et donc il y a un débat qui était en cours à la RTBF là-dessus. Et nous, de notre côté, on a entamé le débat. Ça s'est passé de manière très simple, très naturelle et de manière très informelle. On a dû en référer à personne. On s'est réunis dans la rédaction. Ah oui, je m'en souviens. On avait un règlement intérieur qui intégrait déjà en fait une série de règles et de garde-fous, entre autres contre le révisionnisme, contre le racisme, qui était dans le règlement intérieur d'RTL, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations sur base des races, etc. Et puis il y a une loi en Belgique, la loi Moureau, qui est une loi du début des années 80, qui est une loi contre le révisionnisme et qui est une loi antiraciste et qui transformait à l'époque déjà le racisme en délit, punissable par la loi. Et donc nous, on a intégré finalement le respect de la loi dans notre mode d'organisation. Et de là, effectivement, on s'est dit, mais c'est une discussion qui n'a eu lieu qu'au sein de la rédaction, parce que je me souviens bien, on n'a eu aucune pression, ni même aucune discussion avec le groupe dont on faisait partie, qui était le groupe RTL, qui est un groupe européen, et c'est une décision purement rédactionnelle. On s'est dit, nous ne mettrons pas à l'antenne les responsables de l'extrême droite et nous ne leur permettrons pas de débattre sur les plateaux en direct de la chaîne. Et que toute intervention de l'extrême droite à l'antenne devrait être contextualisée et expliquée, que ce soit d'ailleurs en Belgique ou en France. C'est-à-dire que c'était valable aussi pour les responsables du Front National lors des soirées électorales françaises, où il était hors de question qu'on laisse le discours de l'extrême droite s'exprimer de manière naturelle et de manière unique, sans être contextualisé. Pourtant, c'est une rédaction qui est pluraliste, qui l'a toujours été, avec des gens de toutes opinions, et qui n'était pas spécialement une rédaction de gauche ou particulièrement progressiste, mais c'était vécu comme quelque chose de naturel, et on avait le sentiment, en tout cas à l'époque, qu'on pouvait faire quelque chose.
Sur la place d'Oufalis, des jeunes autonomes attaquent les vitres à coups de barre et de boulons. Sans rencontrer personne, pendant près de 10 minutes, les observateurs se demanderont comment et pourquoi. Et tandis que Jean-Marie Le Pen précise que s'il est en Belgique, c'est pour jeter les bases d'un mouvement populaire de renouveau national, jusque tard dans la soirée, la gendarmerie nettoie, comme on dit, les rues et le parc Josaphat avec les chevaux et les autocons. Bilan, des dizaines de vitrines brisées, 40 interpellations libérées d'hier soir, 32 blessés légers et 2 chevaux atteints et un tas de questions au niveau politique sans réponse à l'heure où nous parlons.
Mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national belge. Car il est évident qu'à moins de disparaître comme peuple, il faudra bien que le peuple belge fasse la loi chez lui.
Le cordon sanitaire, il vient plus, pour être honnête, de ce qui se passait en France que le développement de l'extrême droite nationaliste en Flandre, qui de nouveau est un phénomène qui remontait très loin, y compris avant la guerre. Et donc c'est en fait la manière dont le Front National de l'époque s'est développé, la personnalité de Jean-Marie Le Pen, la manière dont les médias ont finalement adopté et intégré assez vite le discours et normalisé, je dirais, le discours du Rassemblement National dans le monde politique et le monde médiatique.
Sauf qu'à présent, cette pratique spontanée et consensuelle doit être inscrite dans la loi pour devenir pérenne. Alors, en 1991, les directeurs des médias et rédacteurs en chef francophones ont l'idée de s'appuyer sur un texte fondamental, la Convention européenne des droits de l'homme de 1948. Évidemment, Simon-Pierre de Coster connaît ça sur le bout des doigts.
L'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme dit clairement qu'aucun groupe, aucun parti, aucune personne ne peut utiliser les libertés, et notamment la liberté d'expression, pour anéantir, pour réduire les libertés d'autrui. Et donc, accepter qu'un parti politique non démocratique puisse utiliser l'antenne d'un service public pour diminuer ou restreindre ou anéantir les libertés d'autrui, c'est un véritable problème démocratique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que après la guerre 40-45, les rédacteurs de la Convention européenne des droits de l'homme ont bien compris qu'il fallait qu'il y ait un article qui permette d'éviter aux démocraties de se tirer une balle dans le pied.
Les élections régionales et européennes de 1994 sont le premier crash test. Le docteur Ferret est le président du Front national belge, un clone de son homonyme français. Il demande à intervenir sur les plateaux de télévision en direct. La RTBF refuse, elle considère que ce parti n'est pas démocratique. Il a été plusieurs fois poursuivi et parfois condamné par la justice pour des propos incitant à la haine raciale. Le Front national belge attaque alors la RTBF en justice. Et le docteur Ferret, notre petit Le Pen, obtient gain de cause. La Cour d'appel de Bruxelles estime que les arguments de la RTBF ne sont pas suffisamment étayés et concordants pour montrer que ce parti ne respecte pas les valeurs démocratiques.
Et donc nous sommes condamnés à devoir diffuser une tribune électorale de 5 minutes pour le FN belge, dans laquelle, pendant 5 minutes, le docteur Ferret, président du parti, exprime ses points de vue. Il sera d'ailleurs élu député européen suite à ces élections.
La semaine qui suit, le 23 octobre 1994, la chaîne privée RTL organise aussi un débat. Et elle y invite à son tour le député du Front national belge francophone, fraîchement élu. Le parti écologiste, très important en Belgique francophone, refuse de participer. Le même Stéphane Rosenblatt est encore directeur de la rédaction.
À un moment, il y a eu quand même un coup de canif, que moi je ne ressentais pas comme un coup de canif à l'époque, puisqu'à l'époque j'étais directeur des rédactions. Et il se fait que Gérard Depré, qui était le président d'un des grands partis belges francophones, le parti démocrate chrétien, je dirais le PSC, qui était le parti démocrate chrétien de l'époque, a lancé un défi à l'extrême droite. Et a dit « Moi, je veux débattre ». C'était après le débat Tapie-Le Pen en France. Et a dit « Non, moi, je pense que la démocratie, c'est de débattre. Et je lance un défi à Ferret, parce que je pense que je vais lui détruire la figure ». Ferret, qui était le patron et qui se voulait être le leader charismatique du Front national belge de l'époque, qui n'avait pas de lien particulier avec la France, mais qui, en tout cas, voulait refaire le même coup que la France. On s'est déclaré volontaire, en tout cas candidat, pour accueillir ce débat, qui a été mené par un des journalistes politiques de la chaîne. Et c'est vrai que le débat a eu lieu. Bah, il a été, comme prévu, décevant, parce que, comme dans tout débat entre l'extrême droite et un parti démocratique, bah, on découvrait, entre guillemets, avec un peu de naïveté, que l'argumentaire n'était pas le même, et que le rationnel, d'un côté, face à l'extrême droite, ça marche pas vraiment, et que donc on était à deux niveaux. Donc ça n'a pas été un grand succès. On nous l'a reproché, nos concurrents essentiellement de la RTBF, certains journalistes de la presse écrite, du côté flamand, pas du tout, parce qu'eux voyaient ça avec des yeux complètement hallucinés de voir ce qui se passait côté francophone, parce qu'eux n'ont jamais compris ce qui se passait côté francophone, ben, le cordon sanitaire.
C'est la seule fois que le cordon sanitaire est rompu en Belgique francophone. Par la suite, la RTBF monte des dossiers juridiques en béton qui jusqu'à aujourd'hui résistent aux attaques. Toujours sous la responsabilité de Simon-Pierre de Coster.
Après avoir analysé les programmes, les tracts, le site internet et les publications d'un parti, eh bien, la RTBF a le droit de décider, sous le contrôle a posteriori des tribunaux, qu'un parti respecte ou non les valeurs démocratiques et s'il ne les respecte pas, de lui refuser l'accès à l'antenne. Et le Conseil d'État, il se base à la fois sur le pacte culturel et à la fois sur le statut de la RTBF, qui est donc la radio-télévision de service public, dans lequel il y a un article qui dit clairement que la RTBF ne peut pas diffuser des émissions qui portent atteinte aux lois, à l'intérêt général, ou qui contiennent des incitations à la haine, à la violence ou à la discrimination pour quelque motif que ce soit, et notamment des motifs de race, d'origine ethnique, de nationalité des personnes, de couleur de peau, voire de religion notamment. Et ben, cet examen, il sera effectué par le service juridique, avec les rédactions, avec le directeur de l'information, avec l'assistance d'avocats extérieurs, avec l'assistance de centres extérieurs, comme par exemple le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui est une institution publique qui désormais en Belgique s'appelle UNIA, mais également avec des centres sociopolitiques d'analyse liés à des universités et qui présentent des garanties d'indépendance, et puis aussi avec le concours parfois d'observatoires indépendants liés au fascisme, comme par exemple le groupe Résistance ou le groupe Front Antifasciste 2.0 à Liège.
Résultat, après plus de 30 ans de cordon sanitaire, le Front National belge et son docteur Ferret ont disparu du paysage politique depuis longtemps. La seule formation d'extrême droite qui faisait encore vaguement parler d'elle s'appelait « Chez nous ». Elle a fait moins de 1% aux élections fédérales en 2024 et depuis, elle aussi a disparu. L'extrême droite demeure donc très marginale côté francophone. Tandis que du côté flamand, où on ne pratique pas du tout le cordon sanitaire, l'extrême droite est à 14%. Évidemment, ce n'est pas seulement au cordon sanitaire qu'on peut attribuer ces chiffres. Le terrain social et politique wallon a de nombreuses spécificités qui l'ancrent à gauche depuis la moitié du XXe siècle. Et puis, il y a aussi des groupes antifascistes très vigilants et efficaces, dont parle Simon-Pierre de Coster. À Liège, j'ai rencontré l'un d'eux. Il s'appelle Julien Dohet. Il est porte-parole de la coordination antifasciste belge, la CAB.
La spécificité de ne pas avoir eu d'extrême droite fait que les groupes antifascistes, à un moment donné, disparaissent un peu puisqu'il n'y a rien en face. Mais la militance vraiment antifasciste avec l'intervention, aller au contact pour les empêcher de se réunir, veiller à ce que dans l'espace public, il n'y ait pas d'autocollants ou pas de sigles d'extrême droite surcollés, mettre nos autocollants, etc. Ça, c'est un travail qui, en Belgique francophone, se refait depuis 5-6 ans quand, avec d'autres, j'ai recréé le Front antifasciste, quoi. Donc les actions antifascistes que je mène, mais avec plein d'autres camarades, c'est empêcher les meetings et les réunions d'extrême droite, c'est empêcher une présence dans l'espace public de l'extrême droite. Et à chaque fois, donc, Jordan Bardella essaye de venir prendre la parole en Belgique francophone, notamment ici à Bruxelles. On fait des mobilisations pour empêcher la tenue de la réunion. À chaque fois, on y est arrivé. C'est vraiment le côté de ne vraiment laisser aucun espace dans lequel il pourrait commencer à s'immiscer, puisque tant que ils sont anecdotiques comme ils le sont en Belgique francophone, c'est à ce moment-là qu'on doit les empêcher de progresser. C'est pour cela que, avec d'autres, je participe à être ultra vigilant sur cette présence, mais aussi à informer, à tracter et à faire différentes activités antifascistes, même quand il n'y a pas de présence d'extrême droite. Je suis un peu l'extraterrestre quand je vais à des conférences en France par rapport à une situation qui est vraiment totalement différente. On est parfois accusé d'agiter comme ça une menace fantôme qui n'existe pas. Lutter contre l'extrême droite en Belgique francophone alors qu'il n'y a pas d'extrême droite. Et donc ça, c'est notre difficulté que d'autres n'ont pas. En France, il n'y a pas de difficulté à dire là, l'extrême droite est dangereuse, elle est présente, elle est forte. Par contre, la force que l'on a, c'est d'avoir une extrême droite, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qui est très faible, tant numériquement que politiquement, que sur tous les plans, même intellectuellement. Et donc c'est vraiment la stratégie de tuer dans l'œuf toutes les initiatives d'extrême droite qui peuvent exister.
Quand on a la notion du cordon sanitaire contre l'extrême droite chevillé au corps, c'est difficile de s'en défaire. C'est une seconde nature. Charline Vonnenacker en a aussi fait les frais.
Cette question du cordon, c'est vraiment un des sujets pour lesquels je m'en plafonne avec mes confrères et mes consoeurs. Je me souviens d'avoir participé à l'émission politique de Léa Salamé et David Pujadas. C'était 2-3 mois avant qu'Emmanuel Macron soit élu pour la première fois. L'émission politique en prime time sur France 2 Et Léa Salamé me propose, elle a vraiment été kamikaze, de faire une chronique face à l'invité politique à la fin de l'émission. Et j'assistais de temps en temps aux réunions de rédaction parce que ça m'inspirait beaucoup et puis il fallait que je connaisse le contenu de l'émission. Moi, je n'intervenais jamais, je ne faisais qu'écouter. Et Léa a dit devant tout l'aréopage de journalistes de son émission, « J'aimerais quand même qu'on entende Charline. » Parce que c'était le jour où ils préparaient l'émission avec Marine Le Pen. Et ils s'étaient dit, comment est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en face de Marine Le Pen qui puisse un peu la renvoyer dans les cordes et qu'on a un débat qui puisse la mettre un peu en difficulté. Ce qu'ils font pour tous les candidats. Hein. Et ils avaient pensé à Patrick Buisson.
Patrick Buisson, en gros, a distillé ses idées d'extrême droite jusqu'à ce qu'elles finissent par arriver à l'Élysée. Il a été notamment conseiller de Sarkozy et a appelé ensuite à voter Zemmour.
Là, je suis tombée de ma chaise, je me suis dit, voilà, déjà, je vais devoir me retrouver avec Marine Le Pen. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai rompu le cordon sanitaire médiatique, et je vais vous expliquer pourquoi. Et en plus, pour le prix d'un, je vais en avoir deux, quoi. Donc je leur ai dit, écoutez, j'ai pas la même culture journalistique que la vôtre, je suis vraiment choquée que, en plus de Marine Le Pen, vous invitiez Patrick Buisson. Donc je vous renvoie à qui est Patrick Buisson, révisionniste... Pourtant, il a été le patron de la chaîne Histoire, âme damnée de Nicolas Sarkozy dans ses pires idées sur l'immigration. Voilà, bon, ils n'ont pas tellement réagi, mais Léa m'a laissé m'exprimer. À ce moment-là, je passe pour un ovni, évidemment. J'ai bien senti que mon propos était déconsidéré. Ça a été vraiment... Ils ont été polis, mais ils ont fait « Bon, allez, dossier suivant, on passe à autre chose ». Et là, ça a été un cas de conscience pour moi parce que j'allais me retrouver pour la première fois sur un plateau de télévision ou dans un média, même à la radio, ça m'était jamais arrivé, devant la leader de l'extrême droite en France. Et j'ai tout de suite dit, ce jour-là, je ne viens pas. Moi, j'applique le cordon sanitaire médiatique, je ne viens pas. S'en est suivi une longue discussion avec les membres de la rédaction de France 2, l'équipe de Pujadas et de Léa Salamé, où ils m'ont dit, mais Charline, si tu viens pas, ta chaise est vide. Et je me suis dit, dans le fond, c'est vrai, c'est d'autant plus vrai que si j'adopte la politique de la chaise vide, c'est exactement ce que je leur reproche au Parlement européen. Et donc, je me suis dit, bah, je vais en jouer. Il faut faire comme au judo, retourner la force de l'adversaire. Ils pratiquent la politique de la chaise vide au Parlement. Très bien, je vais arriver avec un plan de Bruxelles devant Marine Le Pen pour lui dire, écoutez, comme vous ne venez jamais au Parlement, je vous ai pris un petit plan de Bruxelles. Regardez, je vous ai mis le trajet de la gare du Midi jusqu'au Parlement. Comme ça, la prochaine fois, vous trouverez le chemin. Et c'est ça que j'ai fait. Donc moi, ça a été vraiment 2 mois de profonde réflexion et de profonde angoisse à l'idée de devoir exercer mon métier et de devoir donner un coup de canif au cordon sanitaire. Mais étant donné que j'étais en France, il n'existait pas ce cordon. C'était mon cordon intérieur auquel je donnais un coup de canif. Woke up in the morning. My dreams were real and wild. I opened up my eyes and I found out I was a turtle. And my world turns upside down. C'était le cordon sanitaire médiatique, un reportage et une enquête de Stéphanie Thomas réalisée par Éric Lancien. Merci à notre consoeur Charline Van Honecker, à Simon-Pierre de Coster, à Stéphane Rosenblatt, à Julien Doué, à Félicien Bogart, à Myrto Grecos, à Yasmina Milich et à Benoît Moulin. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Mina Morel. Better to dance live.